Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Cette perquisition avait été annoncée mardi soir dans le Canard enchaîné. Nous regrettons évidemment cette violation du secret de l'instruction.
Perquisition au ministère de la Justice visant directement Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est sous le coup d'une enquête pour de possibles conflits d'intérêts. Les zones d'ombre du dossier n'ont pas fait douter les jurés. Willy Bardon, condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'Élodie Kulik. La plateforme de location Airbnb devra verser 8 millions d'euros à la mairie de Paris. C'est la première fois qu'un géant du web est condamné à payer une amende à une collectivité. 14 jours qui deviennent 28, la durée du congé paternité vient de doubler pour le plus grand bonheur des papas soucieux de s'occuper de leur nouveau-né. Dans ce journal également, un accord historique à l'OCDE, 130 pays viennent de s'entendre sur un nouveau système de taxation des multinationales, un impôt minimal sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales. Jean-Luc Mélenchon lance officiellement sa campagne pour les présidentielles avec un thème central, la question de l'eau. Et puis nous irons à Londres où une statue de la princesse Diana a été dévoilée en présence de ses deux fils. La météo, elle sera demain agréable pour presque tout le monde. Il faudra pour cela attendre la dissipation des brouillards matinaux, mais ensuite les éclaircies vont illuminer la journée avant le retour de la pluie dans la soirée, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a rebondi aujourd'hui, plus 0,71% à 6553 points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Allons-nous vers une pénurie de logements neufs en France? C'est la question que posera ce soir Emmanuel Duteil à son invité, Laurent Dumas, président du groupe Emerige, l'un des plus gros promoteurs immobiliers du pays. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des juges et des enquêteurs au ministère de la Justice, voilà une scène qui, en temps normal, est tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que cette fois, ces magistrats et ces gendarmes n'étaient pas conviés. Ils se sont invités sans prévenir pour une perquisition visant directement Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux est sous le coup d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Justin Morin, rappelez-nous, qu'est-il reproché exactement au ministre de la Justice ?
Alors, il y a des soupçons de conflit d'intérêts entre son action en tant que garde des Sceaux et ses positions dans certains de ses dossiers lorsqu'il était avocat. Une vingtaine d'enquêteurs de la section de recherche de Paris ont donc investi le ministère de la Justice ce matin pour trouver des éléments concernant en particulier deux dossiers suspects. Le premier, c'est celui dit des fadettes. Quand il a été nommé ministre, Éric Dupond-Moretti a lancé des poursuites administratives contre trois magistrats du parquet national financier. Ce sont ceux qui ont enquêté sur Nicolas Sarkozy, son avocat ainsi que des proches, dont Éric Dupond-Moretti. Ses relevés téléphoniques avaient été épluchés, l'avocat avait dénoncé des méthodes de barbouze pour les syndicats de magistrats. Les enquêtes administratives lancées quand il est devenu garde des Sceaux interrogent. Ils y voient un possible conflit d'intérêts. L'autre dossier, c'est celui du juge Levrault. Dans ce dossier, Éric Dupond-Moretti défendait un policier soupçonné de corruption. À l'époque, il avait été choqué par les méthodes de ce juge d'instruction, qui avait notamment témoigné dans un documentaire télé, à peine nommé ministre. Il a aussi lancé une procédure administrative contre le magistrat. Alors depuis le début, le garde des Sceaux se veut confiant. Selon son entourage, les procédures ont débuté avant son arrivée au ministère de la Justice. Lui n'aurait fait que suivre l'avis de ses services.
Précision signée Justin Morin pour Europe 1. L'avocat d'Éric Dupond-Moretti s'est exprimé en début de soirée devant le ministère de la Justice. Maître Christophe Ingrin regrette que cette perquisition n'ait pas été tenue au secret.
Cette perquisition avait été annoncée mardi soir dans le Canard enchaîné. Nous regrettons évidemment cette violation du secret de l'instruction. Tout comme nous regrettons le déploiement de forces totalement disproportionné auquel nous assistons, puisque en plus des magistrats présents, il y a une vingtaine de gendarmes armés qui participent à cette perquisition. C'est un déploiement de force qui est d'autant plus incompréhensible que dès l'annonce de l'ouverture de l'instruction, le garde des Sceaux nous avait demandé de transmettre à la CJR la totalité des documents détenus par le ministère de la Justice au sujet des faits dont la CJR est saisie. Le garde des Sceaux est très serein, très calme.
Maître Christophe Ingrin, l'avocat d'Éric Dupond-Moretti, j'ajoute que cette perquisition est toujours en cours au moment où je vous parle. Elle a débuté à 9h ce matin. Là, ce n'est pas un ministre qui est visé, mais tout le gouvernement. Le Conseil d'État lui donne 9 mois pour prendre des mesures supplémentaires pour le climat. Un ultimatum inédit pour que soit respecté l'objectif de 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Venons-en maintenant à ce verdict cet après-midi aux Assises du Nord. Willy Bardon était jugé en appel dans l'affaire Élodie Kulik, cette jeune femme retrouvée morte en 2002. Eh bien, comme en première instance, la Cour l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette fois avec des charges supérieures, Lionel Gougelot.
Oui, parce que cette fois, Willy Bardon est condamné pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Et malgré ses protestations d'innocence, le jury et les magistrats de la cour n'ont pas laissé la moindre place au doute, convaincus que sa voix, reconnue par des proches sur l'enregistrement de l'appel aux pompiers d'Élodie au moment de son agression, cette voix signait sa présence sur les lieux du crime et donc sa participation au viol et au meurtre de la jeune femme, même si aucun élément matériel comme l'ADN ne pouvait l'attester. À l'énoncé du verdict, Willy Bardon est resté prostré, tête baissée dans son box, sans un regard pour sa compagne au premier rang qui s'effondrait en larmes. Le verdict rendu, Jackie Kulik, le papa d'Élodie, pouvait faire part de son soulagement. Il avait juré sur les tombes de sa fille et de son épouse qu'il obtiendrait un jour justice.
J'ai tenu parole. J'avais dit qu'on les aurait. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez ? Maintenant, ça sera à lui de payer. Parce que les quelques années de détention qu'il fera me ramèneront jamais ma fille. Ça, je ne peux pas l'oublier.
La défense de Willy Bardon annonce qu'elle va se pourvoir en cassation, regrettant que, dans cette affaire, l'émotion l'ait emporté sur le droit.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. C'est une grande première en France. Airbnb a été condamné aujourd'hui à une amende par le tribunal judiciaire de Paris. La plateforme de location va devoir verser 8 millions d'euros à la mairie de la capitale, Maud Descamps.
Oui, c'est la première fois qu'un géant du web est condamné à verser une amende à une collectivité. 8 millions d'euros pour ne pas avoir respecté la règle, celle qui oblige les propriétaires parisiens qui veulent louer leur logement à renseigner un numéro d'enregistrement, numéro obtenu auprès de la mairie de Paris. C'est une obligation qui existe depuis 2017. La mairie de Paris avait signalé plus de 1000 annonces illégales. Pour Yann Brossa, adjoint à la mairie de Paris, c'est la fin d'un bras de fer commencé en 2019.
C'est la victoire d'une forme de ténacité de la mairie et je pense que nous avons eu raison de mener ce combat, qui est un combat qui va dans le sens de l'intérêt général. C'est une entreprise qui était habituée à une forme d'impunité, comme beaucoup de géants du net. Donc c'est aussi un signal envoyé à ces boîtes qui ont l'habitude de vivre dans cette impunité.
Mais l'affaire pourrait ne pas s'arrêter là, puisqu'Airbnb pourrait tout à fait décider de faire appel de cette décision. Contactée par Europe 1, la plateforme n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.
Merci Maud Descamps. Si vous avez réservé un appartement via Airbnb ou autre, en Italie ou en Espagne pour vos vacances cet été, vous aurez besoin de ce sésame, le pass sanitaire européen. Il est entré en vigueur aujourd'hui et est d'ores et déjà exigé dans les aéroports pour les vols à destination des pays de l'UE. L'Europe où les contaminations au Covid repartent à la hausse après 10 semaines consécutives de recul. Le nombre d'infections a augmenté de 10% en raison notamment de la progression du très contagieux variant Delta. Le Portugal a d'ailleurs rétabli ce soir un couvre-feu dans 45 communes dont la capitale Lisbonne.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
C'est une petite révolution qui va permettre de rattraper un peu notre retard en la matière. Le congé paternité vient de doubler, 28 jours au lieu de 14, dont une semaine obligatoire. Les pères pourront désormais rester plus près d'un mois auprès de leur nouveau-né et même 7 jours supplémentaires en cas de naissance multiple. Une avancée saluée par ces nouveaux papas que vous avez rencontrés dans une maternité toulousaine, Benjamin Péter.
Oui, devant la maternité Paul de Viguier où je me suis rendu, ce sont des papas ravis que j'ai croisés, notamment Guillaume, sa fille Iliana est née dimanche, mais il va quand même pouvoir bénéficier de ses 28 jours de congé paternité.
Le terme de la grossesse de ma femme était le 16 juillet, mais en fait il y a eu un déclenchement par anticipation, ce qui fait que je bénéficie de la loi malgré que mon enfant soit né le 27 juin. Si j'avais bénéficié de l'ancien, j'aurais pris ce que j'avais pu prendre, j'aurais peut-être posé des congés en plus ou pas, je sais pas, honnêtement j'aurais peut-être pas posé. En plus j'ai un boulot, je suis directeur technique, donc c'est aussi compliqué quand je pars. Franchement c'est génial, je pense que c'est vraiment au début qu'on en a besoin, quoi, tous les deux. Quoi. On prend le temps pour être avec elle, pour commencer notre petite vie de famille, quoi.
Alors les papas sont heureux, mais les mamans aussi sont soulagées. Géraldine accouche dans quelques semaines et savoir que son mari Benjamin sera à ses côtés le premier mois la rassure beaucoup.
C'est vrai que pour le premier, les trois premières semaines juste après l'accouchement étaient très éprouvantes, tant physiquement que psychologiquement. Donc c'est vrai que la présence du papa, c'est pas du luxe.
C'est être présent pour les moments les plus importants, les moments où le bébé et la maman sont les plus vulnérables. Ça a beaucoup de sens que le papa soit là. C'est normal.
En sachant qu'en plus, on a notre aîné qui a que 16 mois, donc ça va être sport, je pense.
Et si cette période de congé peut être morcelée, la plupart des nouveaux ou futurs papas que j'ai croisés envisagent de prendre ces 28 jours d'une traite pour être le plus présent possible dès les premières semaines.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Autre changement en ce 1er juillet, la hausse des tarifs réglementés du gaz, près de 10%. Augmentation de prix également pour les produits hors Union européenne commandés sur Internet. Les colis de moins de 22 euros sont désormais soumis à la TVA, ce qui n'était pas le cas auparavant. De fiscalité, il en était question aujourd'hui à l'OCDE. 130 pays se sont entendus sur un nouveau système de taxation des multinationales. Carole Ferry, expliquez-nous que prévoit cet accord fiscal historique qualifié ce soir par le ministre français de l'économie comme le plus important conclu depuis un siècle.
Eh bien, l'idée, c'est de taxer les multinationales les plus rentables du monde entier. Cela concerne une centaine d'entreprises au total, généralement les reines de l'évitement fiscal. Sont visées, bien sûr, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Mais cet impôt ne concernera pas que les entreprises du numérique. Le géant français du luxe, LVMH, par exemple, est également ciblé. Alors, cet accord prévoit donc une taxe d'au moins 15%. Cela veut dire un taux qui pourrait augmenter à l'avenir. Et l'idée, c'est que si une entreprise dit payer 3% d'impôt à Singapour, par exemple, eh bien, nous pourrons réclamer les 12% manquants si cette entreprise a des activités en France. Avec cette mesure, l'OCDE espère récupérer au total 100 milliards d'euros auprès de ces multinationales, qu'il faudra bien sûr redistribuer entre tous les pays. La France espère ainsi obtenir 5 à 10 milliards chaque année. Un accord historique, en effet, et c'était loin d'être gagné. Cela fait plusieurs années que l'OCDE travaille sur ce projet. Il s'agit là donc d'un accord politique. Il faudra encore rédiger la loi qui l'encadre et cela va prendre du temps. Cette nouvelle taxe ne devrait pas voir le jour avant 2023.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. L'économie, justement, l'économie française, elle se porte bien à tel point que la croissance devrait atteindre 6% cette année selon l'INSEE. Prévision plus optimiste que celle du gouvernement qui table lui sur un rebond de 5%. Toujours au chapitre économique et social, Bercy annonce ce soir un accord de principe pour la reprise des sites en difficulté d'Ascoval et d'Ayange par le groupe sidérurgique allemand Schachtal. La vente pourrait être conclue cet été. J-283, à moins d'un an de la présidentielle, la liste des candidats s'allonge. Yannick Jadot s'est lancé à son tour dans la course à l'investiture de son parti, Europe Écologie Les Verts. L'eurodéputé fera face en septembre lors de la primaire au maire de Grenoble, Éric Piolle, et à l'universitaire Sandrine Rousseau. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est, vous le savez, candidat depuis bien longtemps, mais c'est aujourd'hui que le leader de la France insoumise a officiellement lancé sa campagne. Campagne où un thème tient une place capitale, celui de l'eau, Hélène Tarzian.
Effectivement. Et le ton est donné sur son affiche de campagne dévoilée aujourd'hui. On y voit Jean-Luc Mélenchon, le regard au loin, prônant l'Union populaire avec en fond la mer. Certes, le candidat insoumis est député des Bouches-du-Rhône à Marseille. Il incarne l'ouverture sur la Méditerranée et d'après ses équipes, on peut y voir une politique d'accueil des réfugiés. Mais surtout, c'est bel et bien pour faire de l'eau la thématique phare de sa campagne. Pourquoi l'eau ? Jean-Luc Mélenchon y a répondu déjà lors d'un meeting virtuel organisé en avril dernier et consacré à cette thématique parce qu'elle rend, dit-il, le problème de l'écologie le plus concret. Ce matin, en conférence de presse, le candidat de la France insoumise persiste et signe.
La question de l'eau est en train de devenir la question centrale de l'humanité. La sécheresse, l'eau, va poser toutes les questions du mode de production dans lequel nous vivons et donc la question sociale qui va avec. Ça, c'est le premier trait qui sera la caractéristique, l'arête de la campagne que je vais mener.
Au sein de la France insoumise, on martèle que l'eau est en danger, accaparée par des multinationales et qui subit donc la pollution des plastiques, des pesticides. Le cycle de l'eau est perturbé, explique Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de cette ressource menacée un bien commun, éviter le gaspillage. Il milite d'ailleurs pour une gestion uniquement publique de l'eau. La France insoumise a même organisé il y a quelques mois une votation pour faire inscrire dans la Constitution le droit fondamental à l'eau.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Direction maintenant le Royaume-Uni qui portait bien son nom cet après-midi puisque les princes Harry et William ont salué ensemble la mémoire de leur mère, la princesse Lady Di. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui. Une statue à son effigie a été dévoilée dans les jardins de Kensington Palace. L'occasion de retrouvailles pour les deux frères que l'on sait en froid. En tout cas, cette scène a été particulièrement scrutée par les Britanniques. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres.
Oui, et la vue de la statue a provoqué des cris de joie parmi ses fans qui suivaient la cérémonie sur leur téléphone. John est aux anges, cet admirateur inconditionnel de Diana vient se recueillir tous les ans à Kensington Palace depuis sa mort.
C'est magnifique, ça lui ressemble beaucoup. Et maintenant, les garçons ont leur mère en statue de bronze qui va rester ici pour l'éternité. Des générations et des générations pourront la voir et on parlera d'elle dans 1000 ans.
La statue représente la princesse accompagnée de 3 enfants. Selon le palais, elle reflète la chaleur, l'élégance et l'énergie de Diana ainsi que l'impact universel qu'elle a eu. Marie est séduite.
Ça reflète son image et sa personnalité à la perfection. Ce n'est pas facile de figer la personnalité de quelqu'un dans une statue. C'est du bon boulot.
Ses fans ont également scruté la gestuelle de William et Harry qui ont dévoilé la statue ensemble. Prola est venue spécialement du nord de l'Angleterre pour l'événement et elle espère qu'ils ressortiront réconciliés de cette cérémonie.
Je pense qu'ils redeviendront amis. S'ils se rappellent leur mère, alors ils vont se souvenir qu'elle voulait qu'ils soient amis. Quand elle était encore en vie, ils lui ont promis de rester proche.
Ses fans attendent avec impatience de découvrir la statue. En vrai, elle sera accessible au public dès demain.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. On passe au Tour de France.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Il n'est plus qu'à 2 unités du record d'Eddy Merckx. Mark Cavendish a remporté aujourd'hui sa 32e victoire sur le Tour de France, sa 2e sur cette édition. Mathieu Van Der Poel conserve le maillot jaune à l'issue de cette 6e étape entre Tours et Châteauroux. Au programme demain, les coureurs relieront Vierzon au Creusot, 249 km, soit la plus longue étape sur le Tour depuis 21 ans. La météo, Anissa Haddadi avec au programme demain une belle journée.
Oui, avec tout de même, Julien, demain, de nombreuses grisailles matinales. Soyez prudents. Hein. Toutes les régions sont concernées par ces nuages bas, ces brouillards locaux, sauf dans le sud-est où là, le soleil déjà brille demain matin. Dans la journée, ces nuages bas vont se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies. Alors sur la moitié nord, demain après-midi, nous aurons quelques petits cumulus qui pourront lâcher 2-3 gouttes. Mais dans l'ensemble, c'est une journée plutôt calme. Au bord de la Méditerranée, il fait toujours aussi beau. Et puis en fin de journée, nous avons un ciel qui va se voiler doucement sur la façade ouest. La pluie arrive par la pointe bretonne et sur le littoral aquitain. Les températures matinales, elles sont fraîches. Demain, avec seulement 7 degrés à Charleville-Mézières, c'est en dessous des normales de saison. 9 pour Belfort, 11 à Strasbourg, 14 pour Paris et 20 degrés demain matin à Perpignan. Au meilleur de la journée, nous aurons 19 degrés à Cherbourg, 21 à Lorient, 24 pour Nancy et Metz, 26 à Paris, 28 à Bordeaux, 31 degrés à Marseille, 33 à Carcassonne. Et il va faire lourd à Nîmes avec 34 degrés demain après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine en hausse ce soir et les indices américains flirtent une nouvelle fois avec les records historiques.
Oui, on est proche des records. Le Dow Jones termine à 34 633 points en hausse de 0,38%. Et le Nasdaq gagne 0,13%, 14 522 points. Les marchés sont dopés par de bonnes nouvelles pour l'économie, bonnes nouvelles pour l'emploi, mais aussi pour l'activité manufacturière aux États-Unis. Et puis on suit aussi les pays de l'OPEP+, qui sont réunis pour parler production et qui ont bien du mal à se mettre d'accord. Leur réponse, elle est finalement attendue demain. Et en attendant, le WTI bondit de 2%. Les géants du secteur en profitent. Chevron gagne 1,5% et ConocoPhillips plus 3,3%.
À Paris, le CAC 40 a en grande partie effacé la baisse de près d'1% enregistrée hier.
Il reprend ce soir 0,71% et termine à 6 553 points.
marchés parisiens soutenus ce soir par le pétrole, comme à New York. Les valeurs du secteur sont en hausse également, plus 1,6% pour Total Energy, plus 4,4% pour Technip FMC. Et puis les banques aussi sont en forme et c'est grâce à Christine Lagarde, la patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne, pense que les restrictions sur les dividendes et les rachats d'actions pourraient être levées fin septembre. Ces restrictions avaient été imposées dans le cadre de la crise sanitaire. Société Générale bondit de 3,4%.
Les investisseurs ont également salué les bons résultats financiers de Trigano.
Ça monte pour Trigano, plus 5,5%. Le fabricant de camping-cars a fait état d'un bond de 130% tout de même de son chiffre d'affaires trimestriel. Et puis les résultats et les prévisions sont positifs aussi pour Sodexo qui gagne un peu plus de 2%. Et là, le groupe de restauration collective est optimiste pour la suite avec la réouverture complète attendue des écoles américaines. Ailleurs, en Europe, c'est du vert pour la bourse de Londres, plus 1,2%. Francfort gagne 0,5%, Milan plus 0,7%, Madrid plus 1,3%, Amsterdam plus 0,2%. Et à Paris, Julien, le CAC 40 gagne 0,7%. Il termine à 6553 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et merci d'avoir été à mes côtés tout au long de cette saison, sans oublier évidemment le grand Didier Hameau.
Merci Julien.
22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Laurent Dumas.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupe Emerige. Alors tout le monde ne vous connaît pas, mais vous faites partie des gros promoteurs immobiliers en France. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que dans votre secteur, vous êtes nombreux, et notamment vous, à dire attention, il y a une menace de pénurie de logements neufs dans les grandes métropoles et notamment sur la région Île-de-France. Pourquoi, alors que là on est en phase de reprise, qu'on a l'impression que ça reprend un peu, pourquoi il y a cette menace de pénurie de logements neufs?
Eh bien, d'abord parce que il y a eu l'effet Covid. L'effet Covid a encombré les directions de l'urbanisme des mairies. Les permis n'ont pas pu être instruits dans le rythme dans lequel ils sont normalement instruits. Cet encombrement a créé évidemment des permis qui ne sortent pas. Enfin, beaucoup de municipalités ont décidé de réduire la densité théorique des opérations et beaucoup d'opérations sont aujourd'hui en négociation et ne sortent pas. Les permis ne sortent pas et ça crée mécaniquement cette pénurie à venir déjà existante, mais en plus à venir.
Parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que dans toutes les grandes métropoles, on peut prendre l'exemple de Paris, mais de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, on ne construit pas assez déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire déjà qu'on va manquer de logements, il va y avoir des gens qui vont avoir du mal à se loger, et puis le corollaire de tout ça, c'est que les prix vont rester à des niveaux élevés, vont donc sûrement continuer de progresser. On peut estimer cela, Laurent Dumas ?
Oui, alors je peux vous répondre, et surtout sur l'Île-de-France, car nous ne sommes pas présents en région, mais oui, la mécanique naturelle, c'est moins de permis, moins de logements, moins d'offres, une augmentation naturelle des prix.
Dans votre secteur, il y a un autre problème, c'est celui des matières premières. On en manque, et donc les prix, là aussi, ont fortement augmenté. Est-ce que ça vient aussi renforcer la difficulté de construire en ce moment ?
Oui, c'est tout à fait exact. Il y a deux problèmes. Les usines dans le monde entier se sont arrêtées pendant la première crise du Covid. Par ailleurs, le blocage du canal de Suez a entraîné un énorme embouteillage des approvisionnements. Il y a donc deux problèmes. Un problème de délai des approvisionnements. Deux, un problème de fabrication et donc d'augmentation des prix puisque la reprise est mondiale.
Le groupe Emerige, je le disais, c'est l'un des plus gros promoteurs et principalement en Île-de-France. À Paris, justement, vous avez des ambitions très claires. Vous voulez rester leader à Paris et vous dites « je veux reconstruire la ville dans la ville ». Ça veut dire quoi ? On fait du neuf avec du vieux ?
Ça veut dire, un, on peut transformer des bureaux en logements. Deux, on peut construire sur des terrains qui sont disponibles. Trois, en reconstruisant la ville sur la ville, ce que je veux exprimer, c'est qu'il faut penser différemment nos opérations et envisager autant que possible, autant que faire se peut, une mixité des usages, parce que c'est la mixité aujourd'hui qui est attendue par les usagers et les étudiants.
La mixité, c'est quoi ? C'est du logement pour du bureau, pour des particuliers, du logement social, c'est ça la mixité ?
La mixité, je vais vous donner à titre d'exemple la transformation de la préfecture de Morlan, c'est 11 destinations dans un seul et même immeuble, du logement social, du logement intermédiaire, du logement privé, une crèche, un hôtel, une auberge de jeunesse, un centre de création artistique, un marché alimentaire et de l'agriculture urbaine. Donc c'est 11 destinations, c'est une ville dans la ville et c'est une animation assurée sur un même site, ce qu'attendent aujourd'hui les usagers de nos immeubles.
On le disait au début de cette interview, on manque de logements neufs et on va en manquer à cause de permis de construire qui n'ont pas été donnés. Malgré tout, ce que l'on sait aussi, c'est que beaucoup d'entreprises sont en train de revoir leurs plans immobiliers en ce moment, puisque en raison d'un télétravail qui va quand même un petit peu se renforcer, elles ont sûrement besoin de moins de mètres. Et vous faites partie des spécialistes de la transformation de bureaux en logements, je crois depuis le début des années 90, c'est une de vos spécialités. Là, ça peut quand même être un sacré réservoir si on arrive enfin à enclencher ce mouvement de transformation de bureaux vers des logements pour tout le monde.
Alors, oui, c'est vrai, nous sommes spécialistes de la transformation de bureaux en logements depuis 1991, mais nous avons continué à le faire à telle enseigne que depuis 5 ans, nous avons transformé plus de 230 000 m² de bureaux en logements. Mais la question que vous posez est double, c'est quel sera le besoin de l'entreprise demain ? Avec les effets du télétravail, beaucoup disent que ce sera 20% de bureaux en moins. Je n'y crois pas. Ce sera sans doute 20% de télétravail, mais aussi plus de surface pour les salariés dans les immeubles, parce que les salariés vont demander un confort, des services qui soient dans les
immeubles. Donc ce que vous voulez dire, c'est que même si on est moins nombreux à tenter chaque jour dans l'entreprise, vu qu'on aura tous besoin, peut-être pas de plus de place, mais de plus d'espace pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir échanger, parce que peut-être que l'entreprise va devenir plus que jamais un lieu de brainstorming où on viendra quand c'est vraiment utile, ça ne veut pas dire qu'il y aura besoin de moins de mètres carrés en tout pour les entreprises. C'est ça que vous nous dites, hein, Laurent Dumas.
Exactement. Je dis, ça n'est pas parce qu'il y aura 20%, disons, de moyenne de salariés en télétravail qu'il y aura 20% de surface de bureau en moins. Ce que je dis également pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est que oui, il y a des immeubles qui aujourd'hui vont être libérés, qui sont des immeubles totalement obsolètes, et ces immeubles-là sont destinés à être transformés en logements. Et oui, c'est une source absolument significative de création de logements, d'autant plus que ça s'insère toujours dans des bâtiments existants, et donc dans des bâtiments qui, quand ils sont transformés, donnent moins lieu à des recours, le recours est devenu un sport national sur la quasi-totalité de nos permis de construire.
Oui, effectivement, ça permet d'aller par ailleurs plus vite. Si on regarde là, les projets neufs que vous avez du côté du groupe Emerige, Laurent Dumas, est-ce que demain, ça va aussi plus intégrer des espaces pour pouvoir travailler au sein même de chacun des appartements et peut-être des lieux dans les grandes surfaces en tout cas, des lieux de coworking ou autres? Est-ce que vous voyez ça émerger?
En tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il faut penser demain dans nos immeubles de logement à ce qu'il y ait des lieux qui puissent servir de lieux tampons où, là où on a vu les familles en grande difficulté pendant la crise du Covid vivre à nombreux dans des surfaces petites, il faut penser pour nos usagers à ce qu'il y ait dans les immeubles des lieux qui soient de 7 heures du matin à 16 heures des lieux où on puisse travailler, de 16 heures à 18 heures des lieux où les enfants puissent être accueillis et de 18 heures à 23 heures des lieux où les voisins puissent se retrouver ou qui puissent être pris pour recevoir des amis plutôt que de les recevoir dans l'endroit dans lequel on vit en permanence.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Laurent Dumas, le président du groupe Emerige, un des grands promoteurs notamment en Ile-de-France. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir dans l'interview Echo. Très bonne soirée à tous sur
merci
Europe 1.
Merci à vous, bonne soirée à vous.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouvera Emmanuel demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission spéciale sur le Made in France à l'occasion de l'exposition consacrée à ce sujet qui aura lieu ce week-end à l'Elysée. À votre invitée Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'industrie. 22h et bientôt 29 minutes sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les Échos, le spectaculaire rebond de l'économie française, titre Le Quotidien qui revient sur les prévisions que l'INSEE a dévoilées aujourd'hui, une croissance de 6%, soit un point de plus que ce qu'anticipe le gouvernement. Si l'INSEE venait à avoir raison, alors l'activité retrouverait son niveau d'avant-crise dès la fin de l'année, plus de 300 000 créations d'emplois attendues, une bonne nouvelle également pour les salariés, le pouvoir d'achat devrait augmenter augmenté d'1,8%. Les Échos s'intéressent également au télétravail qui est en train de se pérenniser dans bon nombre d'entreprises et contrairement à ce que pourraient croire certains managers, le travail à distance n'est pas synonyme de procrastination, bien au contraire. Une étude réalisée aux États-Unis montre que le recours au télétravail tend à augmenter la productivité des salariés de l'ordre de 5%. Pass sanitaire européen, voyager reste un casse-tête, c'est le titre à la une de West France. 200 millions d'Européens ont déjà accès au précieux Sésame, entré en vigueur aujourd'hui. Il permet de circuler sans quarantaine si l'on est vacciné, testé négatif ou guéri, mais ça, c'est la théorie, pointe le journal régional. Les exceptions fleurissent déjà, puisque la santé comme la surveillance des frontières relève des compétences de l'État. En bref, en clair, avant de vous rendre à l'aéroport, vérifiez bien les conditions appliquées dans le pays où vous vous rendez. On termine avec Libération 2022, des candidats à gauche, titre le quotidien. Piolle et Jadot qui se déclarent chez les Verts, Hidalgo qui accélère, Mélenchon qui s'enracine, Roussel et Rousseau en embuscade, ça fait en effet beaucoup de monde. Et tous se positionnent pour se rendre incontournable à la rentrée maintenant que les régionales sont passées. Élection qui n'a pas permis ni aux écologistes ni aux socialistes de revendiquer clairement le leadership à gauche, d'où cette profusion d'ambition pour l'Élysée, à lire donc demain dans Libération. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien Pierce.
C'est la dernière fois que je vais le dire de la saison, alors je vais essayer de bien le dire. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement, c'est la dernière, mais nous nous retrouverons très vite au mois d'août, mon cher.
C'est en tout cas ce que j'espère.
Bon,
à tout de suite.
Moi aussi, à tout de suite.